d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des précaires et des chômeurs, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de l'association Attaque.
Et pour débuter, pour ne pas changer nos habitudes, nous allons faire les petites chroniques d'actualité de Jean-Marc.
Alors, nos amis les socialistes n'ont pas fini de nous amuser. D'ailleurs, on sait qu'ils sont encore là pour 4 ans au moins, d'amuser la galerie et de nous prendre pour des billes. C'est normal, ce sont des hommes politiques. Ces dernières semaines, entre le Mali, l'Assemblée et les petites phrases, nous avons assisté à un véritable feu d'artifice. Épisode 1, Hollande le guerrier. Alors, Hollande le guerrier, c'est l'histoire d'un chef d'État qui avait des problèmes avec les sondages et qui, grâce à une petite guerre express au Mali, remonte dans les sondages et devient un saint guerrier. Un saint guerrier, c'est donc fêté à Bamako et partout ailleurs. Alors, il a fait quand même un très beau discours, il faut bien le dire. Ça change de celui de Sarkozy dans le mandat précédent qui avait pris les Africains pour des arriérés. Hollande a été un peu plus fin. Il a été au Mali, bien sûr, pour qu'on lui tresse des couronnes de laurier et se faire applaudir. Mais il a quand même réussi à dire quelque chose d'intéressant. Il a dit que la France n'était pas à féliciter et que finalement, la France ne faisait que payer ses dettes aux troupes coloniales. C'était assez joli. Il faut reconnaître que Hollande, s'il n'est pas forcément toujours très bon, est un très bon discoureur et qu'il a du tact. C'est pas tout à fait Sarko. Alors, épisode 2, Hollande le réformateur. Hollande le réformateur, ça nous fait marrer vu ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il a été élu, alors qu'il avait beaucoup de choses dans son programme. Il a fait là aussi un très très beau discours à propos du budget de l'Union européenne. Et ce très beau discours, il était guerrier aussi, il était martial. Il disait qu'il fallait donc faire un budget qui ne soit pas en diminution, un budget qui ne soit pas un budget d'austérité européenne, puisqu'on allait aller dans le mur. On a cru un moment que Hollande était passé à gauche. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, il n'est pas passé à gauche, puisque quelques heures plus tard, eh bien, l'Angleterre et l'Allemagne, qui étaient pour un budget d'austérité, ont emporté le morceau, et Hollande a remporté son beau discours. Donc, du discours, mais toujours pas de réforme. Épisode 3, Valls, Valls, notre petit chéri de ministre de l'Intérieur de gauche.
Ah, tu l'aimes bien, Valls.
Ah, je l'adore, je l'adore. Après avoir continué la politique de ses prédécesseurs en matière d'immigration et de reconduite à la frontière, s'être pavané d'avoir fait les mêmes chiffres que ses prédécesseurs, eh bien, Valls, le soi-disant socialiste, a réussi hier et avant-hier à faire plusieurs interventions dans lesquelles il menaçait de manière à peine voilée les ouvriers des entreprises en grande difficulté s'ils venaient à manifester de manière violente et s'il y avait des dégâts lors de ces manifestations. Il ne faudrait pas oublier qu'ils sont socialistes mais qu'ils protègent tout de même les immeubles du capital. Épisode 4, Montebourg, l'homme de gauche, le troisième homme de la primaire socialiste, celui qui devait faire trembler la finance et faire trembler tous les gens qui ont du pognon en France. Eh bien, Montebourg, qui ne sauve personne, puisque jusque-là, il a tout raté.
On le voit bien fatigué dans les médias. J'arrive pas à croire à lui-même. Enfin, je sais pas s'il croit en lui-même.
Alors, Montebourg, donc, n'a sauvé personne, mais il a quand même une idée géniale. Il a planté Petroplus. Pour l'instant, on va voir s'il y a quand même un petit plan de relance derrière. Ça a l'air mal barré, mais on verra. Mais quand même, au détour d'une petite phrase, il y a 2 jours, Montebourg, tout doucement, au nom bien sûr de l'intérêt national, au nom de l'économie nationale qu'il faut sauver, ressort le gaz de schiste. Le gaz de schiste qu'on avait réussi à enterrer sous Sarko, eh bien les socialistes vont le ressortir. Alors bien sûr, il y a des copains écolos au gouvernement, donc on veut pas les fâcher. Donc Montebourg a bien précisé qu'on allait faire des études pour voir si on pouvait faire du gaz de schiste propre. Rigolons un peu. Épisode 5, Payon. Payon qui est le ministre de la priorité du gouvernement, puisque la priorité du gouvernement, comme chacun sait, c'est l'éducation. Rentrée prévue en 2013, ce sera la pire depuis 10 ans, puisque rien n'a changé par rapport à Sarkozy, et qu'en plus, il merde. Il merde, mais il fait une belle... Il fait un beau rideau de fumée. Ce beau rideau de fumée, ça s'appelle les rythmes scolaires. Quand vous n'avez rien à annoncer aux profs, pas de revalorisation des salaires qui sont bloqués grosso modo depuis 20 ans, quand vous n'avez pas su réformer le lycée dans un sens égalitaire pour mettre fin à la réforme Sarkozy, quand vous n'avez pas su remettre en place des nouveaux programmes qui soient des vrais programmes, quand vous n'avez rien à annoncer en termes de création de postes après les 80 000 suppressions de Sarkozy, mis à part un enfumage de 40 000 postes qui sont en fait 7 000, eh bien, on noie le poisson, on sort un vieux serpent, les rythmes scolaires. Comme cela, tout le monde s'occupe des rythmes scolaires et personne ne s'occupe plus des vrais problèmes de l'éducation. Bravo les artistes. Suite au prochain numéro.
suite au prochain numéro, on va quand même couper la logorée de Jean-Marc pour continuer à parler de cette actualité, parce qu'il n'y a pas que les socialistes dans la vie, il y a quand même plein de choses intéressantes dans l'actualité. Il y a même le football.
Alors, à votre avis, quel est le point commun entre Maradona et Platini? Ouais, quand même.
C'est des joueurs de foot.
Des garçons, peut-être.
C'est des joueurs de foot. Mais pas seulement.
Un petit cerveau et des grosses cuisses.
Sans doute. Ils auraient été tous les deux. Ils auraient été tous les deux impliqués dans des affaires de corruption. D'après les cahiers du football, parce que ça existe, les cahiers du football, Maradona aurait volontairement mal joué pour le club de Naples en 1987. Pour que ce club, justement, ne gagne pas le championnat d'Italie au profit du Milan AC de Berlusconi. Maradona aurait-il été acheté par le Cavaliere? Pas du tout. La vraie raison nous est donnée par Pietro Pugliese, un repenti de la mafia. En 1988, Maradona a offert le championnat au Milan sur ordre de la Camorra, parce que les paris du Totonero, le loto sportif italien, étaient dans les mains de la famille Giuliano. Cette année-là, le Napoli était trop fort, archi-favori. Alors en cas de victoire, la famille aurait dû verser beaucoup trop d'argent au parieur. Elle a demandé à Maradona de laisser filer le championnat.
Moi, c'est pas la version que j'ai. Hein. Moi, on m'a dit que Berlusconi avait fait bunga bunga.
L'autre affaire est beaucoup plus récente. Elle nous est révélée par France Football, celle qui concerne Platini. En 2010, le Qatar obtient à la surprise générale le droit d'organiser la Coupe du Monde 2022. Pour l'obtenir, le Qatar aurait acheté un certain nombre de voix parmi les instances dirigeantes du football. Platini, président de l'UEFA, membre très influent des sphères dirigeantes du foot au niveau mondial, était au départ plutôt favorable à la candidature des États-Unis. Or, à quelques mois du choix définitif, il s'est mis à soutenir le Qatar. Il semblerait que ce soit Sarkozy lui-même qui, en échange d'investissements qatari en France, dont, par exemple, le rachat du PSG, aurait convaincu Platini de changer d'avis. Platini, évidemment, dément. Ce ne sont que deux exemples qui montrent que la corruption est bien présente et depuis longtemps dans le monde du foot. Match truqué, joueur ou arbitre acheté, dirigeant corrompu, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et pourtant, il semblerait que quelque chose change. Pendant longtemps, le monde du foot... Eh oui. Pendant longtemps, le monde du foot a vécu dans la conviction qu'il s'agissait de cas isolés, que le foot n'était pas vraiment concerné par ce genre d'affaires, comme il n'est pas concerné par le dopage officiellement. Or aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'ampleur prise par cette corruption rampante. Une enquête d'Europol vient de révéler l'existence d'un réseau criminel qui aurait truqué au moins 380 matchs entre 2008 et 2011. Pour l'essentiel, il s'agit de matchs sur lesquels les paris qui ont été faits en ligne sont sans aucune mesure avec les enjeux sportifs. On a parlé par exemple d'un match de 3e division belge sur lequel plusieurs millions d'euros auraient été engagés. Ce genre de matchs sont peu surveillés, les arbitres et les joueurs qui sont mal rémunérés sont assez faciles à acheter ou à intimider. Mais en fait, si on va un peu plus loin, c'est une véritable industrie criminelle qui s'est mise en place au cours des dernières années autour des paris sur Internet. Dérégulés, mondialisés et anonymes, ils sont un excellent moyen de blanchir de l'argent sale en faisant du profit au passage. Le marché est juteux. 400 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc réunis. Bref, la corruption dans le foot a de beaux jours devant elle.
Alors la corruption, il y en a peut-être un peu beaucoup dans le foot. Je ne sais pas s'il y en a dans la poésie. En tout cas, on va écouter un duo, le catalogue rimbaldien.
A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. A, noir.
Référence A28, le canapé en cuir vachette rectifié.
Rectifié.
Pigmenté, mousse polyuréthane, 28 kilos au mètre cube. Massage électrique télécommandé. Grâce à ses 8 points de vibration.
Vibration. E, blanc.
Référence E40, culotte ventre plat, pur coton.
Coton.
Vendu par 24, élastique à la taille et aux jambes, petit nœud au devant du milieu.
Petit nœud. I, rouge.
Référence I113, la robe à prix mini.
Mini,
découpe
tout mini.
Découpe sous la poitrine, petit mancheron volanté, finition bourdon.
Ouais, t'as le bourdon. U, vert.
Le manteau bimatière, référence U35. À grand col fantaisie resserré par lien sous tunnel.
U35.
Poche zippée, prise dans la couture princesse.
Zippée. O, bleu.
référence au 302.
Oh, 302.
Le rideau de velours à ambiance cosy chic, rayure en camailleux, souligné de fils dorés façon sari indien.
Façon sari indien.
Difficile transition, mais nous revenons quand même à l'actualité avec la suite des chroniques de Jean-Marc.
Alors, on était à l'épisode 5, on va passer à l'épisode 6. L'épisode 6, c'est l'un des plus croustillants des dernières années et des dernières semaines réunies. Il s'agit bien sûr du mariage pour tous. Un mariage pour tous qui aurait pu être voté en deux coulées gros, comme ça s'est fait en Angleterre, en deux séances à peine, sans débat particulièrement passionnel et sans manifestation géante et sans psychodrame national. En France, on a choisi une autre version. Des annonces distillées dans la presse sur plusieurs mois pour annoncer la sortie du projet de loi, avec des vraies fausses informations qui ont filtré un peu partout, pour sonner le tocsin de tout ce que la France comptait de réactionnaires et de passéistes. Ça a marché, le drapeau rouge a été agité, et tous les taureaux de la réaction ont foncé dans le tas. Ça occupe l'opinion publique, ça fait des mois que ça dure, et ça donne un débat grand-guignolesque à l'Assemblée nationale, mené de main de maître par une Taubira qui se révèle être un excellent orateur. Avec des séances qui sont tweetées, qui sont sans arrêt mises sur Internet, des petites vidéos avec le fou rire de Taubira, la prise de bec de Taubira, avec le judoka très large d'épaule et très petit de tête, etc., etc. Donc un grand show médiatique et législatif à l'Assemblée nationale qui permet, là encore, de dresser un magnifique rideau de fumée sur toutes les incompétences et les insuffisances de notre beau gouvernement. En plus, si on a un peu l'habitude de la Ve République, on sait que lorsque l'opposition dépose un nombre pareil d'amendements pour faire de l'obstruction, 9 fois sur 10, les gouvernements utilisent un petit article de la Constitution qui s'appelle le 49.3 pour passer rapidement et ne pas perdre des semaines. Pourquoi la gauche socialiste a-t-elle décidé de laisser les amendements ? Peut-être pour occuper le terrain. Peut-être pour occuper le terrain, pendant qu'on parle du mariage homosexuel et de tous les fantasmes qu'il a révélés chez nos concitoyens, eh bien, on ne parle pas de l'économie et du chômage. Épisode 7, là, on arrive dans le grandiose. Najat, la belle Najat, porte-parole du gouvernement, et a fait quelque chose de grand pour la cause féminine. Elle a ressorti une loi donc, et un décret de la fin du 19e, début 20e, qui interdisait aux femmes de circuler à Paris en pantalon sans autorisation, et elle l'a enfin abrogé. Il est vrai que c'était une priorité gouvernementale et qu'il fallait absolument le faire. Alors épisode 8, c'est le serpent de mer, ça fait 20 ans que ça dure, et là c'est notre héros national, dans les deux sens du terme, évidemment. Donc notre maire de Nantes est néanmoins Premier ministre qui continue à s'enliser à Notre-Dame-des-Landes. Un certain nombre d'associations ont réussi à obtenir de la justice que les travaux s'arrêtent et qu'il y ait un sursis à exécution le temps que, justement, toutes les procédures soient terminées. Ceux qui avaient déjà annoncé Hollande. Sauf qu'entre-temps, on a perdu des mois, on a dépensé des dizaines de millions en destruction, reconstruction à Notre-Dame-des-Landes et dans les alentours. On a mobilisé des milliers de CRS, il y a eu des centaines de blessés. Tout ça pour rien. Merci le héros. Alors, épilogue de tout ça, on voit que c'est du cafouillage. C'est ce que nous dit la presse. Eh bien, moi, je ne crois pas que ce soit du cafouillage. Je crois, au contraire, qu'on a un gouvernement virtuose dans l'art du leurre, de la diversion et de l'enfumage. Quand on est en mauvaise posture, on enfume. Et bien sûr, ça peut marcher. Alors, un exemple, pour finir, c'est celui de l'Europe et du Mali. Vous allez me dire quel est le rapport entre l'Europe et le Mali ? Eh bien, la France, avec son grand chef de guerre, François Hollande, est partie toute seule au Mali. Alors qu'on ne lui demandait pas vraiment, mais on lui a demandé quand même par lettre. On a réussi à faire une lettre par le chef d'État par intérim du Mali, qui a demandé l'appel, qui a appelé la France au secours. La France est partie toute seule comme une grande. Les Européens ont fourni trois vieux avions et quatre camions. Les Américains ont été frileux et viennent de fournir des drones. Mais finalement, c'est la France qui paye. Or, la France est en déficit. Banco, le chef de guerre a réussi une prise européenne. On s'en était pas rendu compte, la guerre au Mali va nous servir en Europe. Parce qu'avec les dépenses que la France a fait au Mali, le fait que ses alliés européens ont rien foutu, eh bien, ça va lui servir de levier pour prouver à Bruxelles qu'elle peut dépasser allègrement les 3% de déficit, ce qui était sûr de toute façon avec ou sans le Mali. Bravo les artistes.
Et la guerre, c'est quand même un bon argument pour écouter une chanson. On va pouvoir écouter San Severino. On peut imaginer Hollande dire à son épouse, mais chérie, c'est la guerre.
Et vous êtes bien sur l'émission Mode d'emploi de Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'émission Mode d'emploi est aujourd'hui présentée par une équipe composée de militants altermondialistes de l'association Attac et du journaliste du journal Le Piaf. Et pour continuer sur notre... non, en fait, on va pas continuer parce que c'est le débat juste après où on va vous parler de démocratie par rapport à l'économie, c'est-à-dire veut-on encore le libre-échange ou mettre un pouvoir fort qui va nous parler de protectionnisme. On va commencer par une petite introduction sur justement cette démocratie. Va-t-on pouvoir la refonder? C'est-à-dire, finalement, refonder, c'est... On voit des débats au niveau européen, on voit le Conseil européen qui se rassemble, qui se réunit, qui débat pendant 3 jours, 3 nuits, ça commence, ça mange ensemble, ça débat pendant des heures. Est-ce que c'est ça la démocratie? Même les États anciennement dictatoriaux tentent la démocratie. Enfin, c'est pas évident quand on sort d'années de dictature de parler de démocratie. Alors, finalement, quelle est cette démocratie? Pourquoi doit-on reparler de la refonder? Dans un monde où on n'arrive pas à s'opposer à la puissance financière, surtout en Europe, où on voit que une décision politique peut être mise en cause immédiatement par des décisions boursières, ceux qui se retrouvent à la tête d'un État avouent sans honte qu'ils n'ont aucun pouvoir sur l'économie, aucune capacité à prévoir le futur, à prévoir et parler d'écologie. Finalement, ce thème de refondation économique, on le comprend un petit peu mieux. Hein, on est en démocratie, certes, mais a-t-on une démocratie où finalement, c'est quand même le pouvoir au peuple? Est-ce que c'est bien le cas aujourd'hui? Alors, la démocratie, finalement, pourquoi? Hein, il y a peut-être encore des partisans communistes autour de cette table qui sont prêts à un État fort qui imposerait une vision égalitaire entre les gens. Donc finalement, doit-on penser en démocratie? Et puis, si on est convaincu qu'on veut de la démocratie, ben, comment la mettre en place? On est dans un débat où finalement, on a le droit de s'exprimer, mais on a l'impression de crier dans un micro sans avoir forcément des gens qui nous écoutent. Ce sont des questions finalement essentielles lorsqu'on croit que le fait politique a encore un rôle face au monde de la finance. Alors, ces questions un peu complexes, on va essayer de les poser à différents intervenants qui ont été interviewés lors de l'Université citoyenne d'Attac à Toulouse cet été en 2012, donc, grâce aux intervieweurs de l'équipe d'Attac TV. Vous pouvez d'ailleurs écouter toutes ces interviews sur le site attactv.fr. Tout d'abord, nous allons écouter Gustave Massia, qui est membre du Conseil scientifique d'Attac France. Il va nous expliquer, il va expliquer à tous ceux qui ont l'impression que la démocratie est aujourd'hui une évidence, que ce n'est pas si clair que ça. Et il va nous expliquer la nécessité donc de la refondation démocratique.
Donc je m'appelle Gustave Massia, je suis membre du conseil scientifique d'Attac. Et donc dans cette université, je suis intervenu sur plusieurs questions, parmi lesquelles la question des Nations Unies et du multilatéralisme après Rio, la question des aspects géostratégiques aujourd'hui, et plus particulièrement dans la plénière sur la refondation démocratique. Je pense que cette question est une question tout à fait centrale, parce que quand nous parlons au niveau de Attac et dans les mouvements sociaux et au niveau du Forum social mondial, de la transition écologique, sociale et démocratique, évidemment, c'est l'ensemble des trois qui composent, qui préparent le dépassement du capitalisme. Et la question géostratégique, la question géopolitique est présente dans les trois, sur la question sociale, sur la question écologique, évidemment, comme tout le monde peut le voir, et sur la question démocratique. Et donc, pourquoi aujourd'hui, tout ce qui s'intéresse au dépassement du capitalisme considère que la démocratie est une évidence? Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, la question de la démocratie n'était pas considérée comme une évidence. Aujourd'hui, si la question de la démocratie est considérée comme une évidence, c'est parce que nous sommes confrontés à l'échec et aux limites des deux grands mouvements révolutionnaires du XXe siècle, c'est-à-dire le mouvement de construction du socialisme, notamment à partir de la révolution de 1917, et les mouvements de libération nationale, de la décolonisation. Et ces deux mouvements se sont retrouvés confrontés à des limites parce que, justement, la question de la démocratie n'a pas été vraiment traité. Au niveau des révolutions socialistes, c'est ce qui conduit par exemple quelqu'un comme Samir Amin à dire qu'il vaut mieux parler de soviétisme que de socialisme, parce que évidemment on a considéré que cette question était secondaire. Et puis au niveau des luttes de libération nationale, on voit bien que l'évolution des régimes issus de la décolonisation sont des régimes qui finalement se sont retrouvés avec une rupture entre les élites issues de la décolonisation, qui ont conduit les mouvements de libération nationale et les peuples sur la question de la corruption et de la démocratie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'évidence, c'est plutôt qu'on ne peut pas accepter le manque de démocratie.
Et donc, nous devons réfléchir. Alors, le manque de démocratie, si on le compare, par exemple, à une autre expression, qui serait « combattre la dictature », cette notion de manque de démocratie sonne un peu comme une petite maladie, un petit rhume par rapport à une grosse grippe. On peut se demander pourquoi notre monde souffre aujourd'hui de ce manque de démocratie, comme avant on souffrait de la faim ou encore une fois de la dictature. Alors Gustave Massia nous répond, pourquoi est-ce que ce manque de démocratie est aussi criant aujourd'hui ?
C'est une question tout à fait centrale, parce que quand nous parlons au niveau de Attac et dans les mouvements sociaux et au niveau du Forum social mondial, de la transition écologique, sociale et démocratique, évidemment, c'est l'ensemble des trois qui composent, qui préparent le dépassement du capitalisme. Et la question géostratégique, la question géopolitique est présente dans les trois. Sur la question sociale, sur la question écologique, évidemment, comme tout le monde peut le voir, et sur la question démocratique. Et donc, pourquoi aujourd'hui, tout ce qui s'intéresse au dépassement du capitalisme considère que la démocratie est une évidence. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, la question de la démocratie n'était pas considérée comme une évidence. Aujourd'hui, si la question de la démocratie est considérée comme une évidence, c'est parce que nous sommes confrontés à l'échec et aux limites des deux grands mouvements révolutionnaires du XXe siècle, c'est-à-dire le mouvement de construction du socialisme, notamment à partir de la révolution de 1917, et les mouvements de libération nationale, de la décolonisation. Et ces deux mouvements se sont retrouvés confrontés à des limites parce que, justement, la question de la démocratie n'a pas été vraiment traitée. Au niveau des révolutions socialistes, c'est ce qui conduit, par exemple, quelqu'un comme Samir Amin à dire qu'il vaut mieux parler de soviétisme que de socialisme, parce que, évidemment, on a considéré que cette question était secondaire. Et puis, au niveau des luttes de libération nationale, on voit bien que l'évolution des régimes issus de la décolonisation sont des régimes qui, finalement, se sont retrouvés avec une rupture entre les élites issues de la décolonisation, qui ont conduit les mouvements de libération nationale et les peuples sur la question de la corruption et de la démocratie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'évidence, c'est plutôt qu'on ne peut pas accepter le manque de démocratie.
Bon, alors évidemment, vous avez compris que nous ne sommes pas bègues, c'est juste le technicien qui a trop bu avant de venir dans le studio, et donc nous allons enchaîner avec Pierre.
Donc on parlait du manque de démocratie, et Gus Massia, sur la plage suivante, va nous expliquer un peu mieux ce qu'il entend par là.
Pourquoi les mouvements disent qu'on ne peut pas accepter le manque de démocratie ? Qu'est-ce que c'est que le manque de démocratie ? Pour les mouvements, le manque de démocratie, c'est d'abord la question des libertés individuelles et collectives. On ne peut pas accepter des régimes, des transitions qui ne respectent pas les libertés individuelles et collectives. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui est un acquis. La deuxième question, c'est que la question du dépassement du capitalisme se fait autour d'une orientation stratégique par rapport à une société ou à un monde construit par la subordination au marché financier des capitaux. Nous proposons un monde construit autour de l'égalité des droits fondamentaux et de l'invention de nouveaux droits. La liberté de circulation, les droits écologiques, la souveraineté alimentaire, toute une série de nouvelles questions. Et ce sont ces questions-là qui sont portées par les mouvements. Donc la question des libertés et la question des droits. Mais évidemment, il y a d'autres questions qui sont posées, notamment la question du rapport entre pouvoir et politique. Parce qu'on est toujours confronté au fait que si on veut dépasser le capitalisme, il y a un moment où il y aura une rupture.
Alors la rupture, ça sonne souvent à nos yeux comme une révolution, quelque chose de brutal et donc de très éloigné de la pratique démocratique. Mais Gus Massia va nous expliquer pourquoi on pourra demain imaginer des ruptures démocratiques.
Cette rupture implique effectivement que l'on prenne en compte la question du pouvoir, la question du rapport entre pouvoir et politique, et y compris la question de la violence, parce que on est sorti de l'idée de la transition et de la démocratie comme étant un modèle, c'est-à-dire il y a un modèle ancien, on le détruit et on a l'idée que ce qu'est le nouveau modèle et on met le nouveau modèle à sa place. Ce n'est pas comme ça que se fait la transition, évidemment. C'est un cheminement, c'est un processus avec des contradictions. Et c'est ce qui est intéressant dans les nouveaux mouvements qui se sont développés en Tunisie, en Égypte, avec les indignés, avec les Occupy, avec Namar au Sénégal, avec les étudiants chiliens et québécois. Dans ce processus, il y a une nouvelle culture politique. Et cette nouvelle culture politique commence par poser une question fondamentale, c'est comment lutter contre l'hégémonie culturelle qui permet la domination du capitalisme. Et c'est à travers cette culture politique de l'auto-organisation, de l'horizontalité, de la diversité, du rapport entre individuels et collectifs, que peut se commencer à se construire des nouvelles formes de démocratie.
Un terrain qui permettrait justement d'expérimenter de nouvelles formes de démocratie, ça serait le niveau européen, où on a quand même une culture démocratique, ou en tout cas on emploie ce mot, depuis très longtemps. La démocratie semble bien en place, et on pourrait même s'émerveiller de voir des pays où la liberté d'expression est quand même importante, surtout quand on la compare à des pays qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement. Pourtant, on a une vision bien plus pessimiste aujourd'hui face à l'Europe. L'Europe est engluée dans une pensée libérale unique qui empêche toute vision globale, tout rapprochement entre États qui finalement ont une guerre économique, d'entreprises, d'intérêts divergents et qui semble glisser sans réaction vers cette austérité dont on nous rabâche les oreilles. On va écouter à présent Thomas Coutreau, qui est économiste et statisticien, co-président d'Attaque France, et qui, lors de l'université d'été citoyenne d'Attaque, encore une fois à Toulouse cet été en 2012, expliquait pourquoi il faut refonder l'Europe.
Refonder l'Europe, déjà parce qu'elle est en train, de s'écrouler. Hein, on est en train de voir un processus de désagrégation de l'Union européenne, de l'euro en premier lieu, avec la crise de la Grèce et puis qui s'étend maintenant, comme on le voit, à l'Espagne, l'Italie et demain probablement le Portugal, la France. Donc on est face à une attaque des marchés financiers contre la monnaie unique, attaque qui est rendue possible par le caractère complètement déséquilibré, boiteux, de la construction de l'euro, hein, puisqu'on a construit une monnaie unique entre des pays qui sont en guerre économique les uns avec les autres. Et ça ne peut pas, aucune expérience historique n'a permis de voir une monnaie unique, une monnaie commune construite entre des pays qui se font la guerre commerciale, la guerre économique, le dumping social, le dumping fiscal. Ça ne marche pas, et donc là c'est en train de s'écrouler. Et donc il faut refonder cette Europe, parce que nous ne pouvons pas nous passer d'Europe. Nous ne pouvons pas nous passer d'une construction européenne. Aujourd'hui, les enjeux écologiques, les enjeux démocratiques, les enjeux aussi de la paix au niveau mondial sont tellement importants que l'Europe est un élément décisif de la possibilité de construire une réponse démocratique et écologique à la crise actuelle que traverse la planète. Bon, et on a donc vraiment besoin d'un acteur européen qui soit porteur de valeurs communes, qui sont les valeurs européennes de démocratie, d'égalité, de responsabilité. Cet acteur doit se construire au niveau global pour porter des solutions, pour proposer à la communauté internationale, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, proposer des solutions qui permettent de résoudre la crise qui est en train de menacer la survie même de l'humanité, la crise écologique en particulier. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser l'Europe disparaître, de laisser la construction européenne s'effondrer. Nous avons besoin de refonder l'Union européenne sur d'autres bases complètement différentes.
Alors c'est une idée fondamentale, finalement, refonder l'Europe. On imagine qu'on a mis plusieurs siècles à avoir un débat européen. Alors imaginez de refonder l'Europe, parce que ça va prendre plusieurs siècles. Voici quelques pistes de réponse, encore une fois, de Thomas Coutreau.
Aujourd'hui, on voit bien que ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les institutions européennes qui vont pouvoir refonder l'Union européenne. Nous avons une classe politique dans tous les pays européens qui s'est complètement autonomisée de la société, qui maintenant défend non plus les intérêts des sociétés, mais les intérêts des élites, de l'oligarchie, une oligarchie politico-financière, qui, quels que soient les résultats des élections, continue à gouverner dans le sens des intérêts d'une minorité. Ce système politique est à bout de souffle, mais il ne pourra être rénové, chamboulé complètement que par une intervention très importante, une mobilisation très massive des citoyens, comme ça commence à être le cas en Grèce, en Espagne notamment, avec les mouvements qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, avec l'émergence de nouveaux partis politiques comme c'est le cas en Grèce, qui chamboulent le jeu politique. On est face à cette nécessité aujourd'hui de renverser la table, de remettre complètement en cause le fonctionnement des institutions existantes, soit au niveau national ou au niveau européen. Et ça, c'est, on le voit bien en Grèce, hein, ce sont les mobilisations de la société qui seules peuvent permettre de déboucher sur une refondation européenne.
Alors on terminera là sur cette lueur d'espoir. Il existe des moyens, des façons d'imaginer le futur avec des partis politiques, des nouveaux mouvements. On a parlé des indignés ici, on a parlé des mouvements de gauche en Tunisie, on en a parlé aussi en Grèce, en Espagne. On peut imaginer une nouvelle démocratie, une nouvelle pratique démocratique. Et c'est surtout une façon de s'opposer à ce qu'on entend au quotidien. Le quotidien, c'est évidemment, par exemple, d'écouter la radio et d'entendre le cours de la bourse ou la vie.
BNP, 17 points, plus 2. Alcatel, 14, inchangé. Saint-Gobain, 43, plus 0,4. Vivendi,
mignonne,
18, plus 2,3.
Allons voir si la rose, Carrefour, qui ce 21, matin avait éclose, sa robe
BNP,
de pourpre.
37, plus 20. Alcatel, 14, inchangé. Saint-Gobain, 41,
heureux
plus 23.
Comme Ulysse a fait un beau voyage.
14 plus 1.
Ou comme c'est celui-là qui conquit la toison.
Plus 40. BNP, 200 plus 0,5. Alcatel, 6000.
C'est un trou
inchangé.
De verdure.
Saint-Gobain,
où chante une rivière.
Plus 230.
Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent.
Carrefour, 140 plus 400. BNP 42 moins 0,5. Alcatel 17,5 inchangé. Saint-Gobain
demain
11, moins
dès l'aube
25.
À l'heure où blanchit la campagne,
23,
je partirai.
75.
Vois-tu,
Carrefour,
je sais que
40,
tu m'attends.
Moins
j'irai
42.
Par la forêt, j'irai par la montagne.
BNP 09 moins 6,000. Alcatel
sois
0,5.
Sage.
Moins
oh, ma douleur.
Saint-Gobain, 1,2.
Et tiens-toi plus tranquille.
Lundi, 0,6, moins 23 000.
Tu réclamais le soir.
Carrefour, 0,2, moins...
Il descend.
75 000.
Le voici.
C'était La Bourse ou la Vie, avec Patrick et Magali, qui nous présentaient ici deux duos de Patrick. On enchaîne avec Alex, qui va nous parler d'une notion bien différente, mais qui finalement nous effraie aussi, la flexi-sécurité.
Alors, quelques mots sur la flexi-sécurité à la française, j'insiste bien sur à la française, pas à la danoise. Pour commencer, je tiens à rendre hommage à Christophe Barbier, on le fait pas assez. Hein.
Oh oui, on aime Christophe Barbier, aimons Christophe Barbier.
Il a trouvé une formule géniale pour commenter l'accord qui a été passé le 11 janvier dernier entre les syndicats et le patronat. Deux points, j'ouvre les guillemets, la flexibilité, c'est la sécurité.
Entre certains syndicats et le patronat.
Tu as tout à fait raison. Mais j'y viens. L'enjeu de cet accord, c'était quand même quelque chose d'important, c'était de savoir s'il était possible de mettre en place une flexi-sécurité à la française. Et c'est là justement qu'on peut dire que Christophe Barbier a merveilleusement résumé la philosophie de l'accord qui a finalement été signé. La flexi-sécurité à la française, ce n'est pas du donnant-donnant, c'est au contraire tout à l'avantage de l'employeur. On oblige les salariés à plus de flexibilité pour donner au patron plus de sécurité. Quand on regarde le texte de l'accord, en apparence, c'est pourtant pas le cas. Il y a 11 articles qui donnent de nouveaux droits aux salariés, tandis que 15 autres permettent davantage de flexibilité au sein de l'entreprise. Mais comme souvent, le diable est dans les détails. Alors, commencer par ce qui est censé donner des avantages aux salariés. Chacun des nouveaux droits accordés aux salariés est limité est généralement conditionné à de nouvelles négociations. Les syndicats ont par exemple réussi à imposer une augmentation des cotisations versées par les employeurs qui ont recours à des CDD de moins de 3 mois, c'est un peu technique, pour décourager justement la généralisation de ces CDD. Mais cette augmentation est très faible et elle est facile à contourner en ayant recours à l'intérim ou en prétextant des circonstances particulières. Une autre innovation en faveur des salariés, c'est la possibilité qui serait donnée à un chômeur de bénéficier du reliquat de ses droits qui n'aurait pas été consommé lors d'une période d'inactivité précédente. Mais cette mesure ne sera appliquée que si elle n'entraîne pas un déséquilibre des comptes de l'assurance chômage. Or, comme on l'imagine, ça va être assez compliqué. Enfin, le principal acquis de l'accord, la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, elle ne sera mise en œuvre qu'en 2016 si les négociations qui doivent être menées dans chaque branche ne sont pas conclues avant.
Ils ont gagné quelque chose, là, finalement ?
C'est une question de point de vue. Je m'avancerai pas. En revanche, la flexibilité salariale, elle attendra pas. Le texte reprend une promesse de campagne de Sarkozy, les accords compétitivité entreprise qui deviennent les accords pour le maintien dans l'emploi. Les partenaires sociaux pourront négocier une baisse de salaire en échange du maintien des emplois. Une fois l'accord conclu, le salarié qui aurait la mauvaise idée de refuser l'accord sera licencié sans bénéficier des avantages d'un licenciement économique. La vraie révolution, elle est là. Un accord passé par les partenaires sociaux aura plus de poids juridique qu'un contrat de travail. Dans le même esprit, le texte assure une plus grande sécurité juridique aux employeurs, en diminuant les délais pour contester une décision patronale. Enfin, de manière subtile mais assez probablement efficace, les pouvoirs du comité d'entreprise vont être réduits. On comprend que dans ces conditions, des syndicats comme la CGT ou FO, enfermés dans leur conception archaïque, ont refusé de signer l'accord.
Enfermés dans leur conception archaïque, quelle expression, monsieur Alexandre.
C'est toujours dans mon hommage à Christophe Barbier.
Ah, je croyais que tu voulais être embauché au Figaro.
Nous venons de citer quelques brillants personnages, journalistes au Figaro, journalistes multicartes.
Non, erreur, on ne peut pas être journaliste au Figaro, ce n'est pas un journal.
C'est pas un journal, effectivement. En tout cas, c'est meublé de gens qui commencent par un C, continuent par un O, un N, et on peut se demander parfois, où vont-ils ? Où vont les cons ? Bikini Machine.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les altermondialistes d'attaque et les journalistes du PIAF.
Nous avions envie d'un grand débat sur le protectionnisme, savoir si la gauche qui désire ce protectionnisme, le retour d'un État fort, ou cette gauche qui parle de libre-échange, sont capables de se mettre d'accord. Alors, entre nous, malheureusement, le débat était vite vu. Tout le monde est à peu près du même avis autour de cette table. Libre-échange, globalement, c'est pas bien. Alors, nous allons faire un petit discours. Nous allons donc faire un échange, un libre-échange sur le libre-échange. Et tout d'abord, quelques petits moments de définition. Parce que finalement, ce protectionnisme, est-ce que ça existe, Magali ?
Le protectionnisme, d'abord, c'est un mot qui dérange énormément. C'est souvent associé au repli sur soi, au retour en arrière. C'est assez barbare. Et non seulement c'est associé au retour en arrière, mais c'est parfois même associé à l'idée de xénophobie, comme si on était en train de se protéger des autres et non pas justement de l'échange commercial.
Ça, c'est la jurisprudence Sainte-Geneviève.
Exactement. Alors, le protectionnisme, avant tout, c'est vrai que c'est une idée qui consiste à avoir un système économique qui permette de se protéger, non pas de l'autre, mais de protéger notre modèle social et nos emplois. Parce qu'aujourd'hui, on a soit l'idée du protectionnisme, comme tu l'as rappelé, Pierre, soit l'idée du libre-échange qui s'affronte. Le libre-échange, c'est quoi ? C'est avant tout des personnes qui défendent un modèle économique fondé sur une concurrence qui serait libre et qui serait non faussée, c'est-à-dire un système économique dans lequel tous les acteurs, tous les compétiteurs de ce grand jeu de l'échange commercial international seraient à égalité, ils joueraient avec les mêmes règles du jeu. Mais le problème, c'est que ces règles, elles dépendent évidemment avant tout de choix de politique nationale. Et on ne peut pas, évidemment, aujourd'hui dire que tous les États sont à égalité là-dessus, puisque leur choix démocratique les amène à privilégier des conditions salariales différentes, des règles environnementales différentes, etc. Et tant mieux, on peut qu'être pour le fait que pour ce respect des choix démocratiques. Alors, par contre, ces règles différentes font qu'effectivement, il y a un certain nombre de délocalisations et que des entreprises sont amenées à délocaliser les emplois vers des pays qui ont des règles sociales et environnementales bien moindres.
Et c'est même le centre du débat sur le protectionnisme. Si on parle aujourd'hui tant du protectionnisme, c'est à cause de ces fameuses délocalisations.
Oui, mais je voudrais quand même en profiter pour placer un mot. Je voudrais dénoncer l'activisme néfaste des ouvriers chinois qui essayent de se syndiquer en ce moment et qui ont même réussi à le faire dans certaines entreprises.
C'est
scandale. Faudrait quand même arrêter parce que ça va quand même causer des crises cardiaques dans la
finance. Pour un peu, ils deviendraient communistes.
Mais là, justement, des délocalisations vers ces petits Chinois, ou pas si petits maintenant qu'ils commencent à être aptes à se rebeller contre leur pouvoir dictatorial. Alors Alex, est-ce que c'est si effrayant que ça, vu d'Europe ?
Alors, c'est paradoxal. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que un bon libéral vous expliquera que c'est pas très grave. Parce
un
que
bon libéral est un libéral mort.
Donc un bon libéral vivant, un paradoxe, vous expliquera que c'est pas très grave parce que toutes les manières, on crée plus d'emplois qu'on en perd en pratiquant le libre-échange, que ce qu'on perd comme emploi, c'est des emplois qui ont finalement peu de valeur, qui rapportent peu, à faible valeur ajoutée, qui demandent relativement peu de compétences, et qu'on a tout intérêt à se spécialiser dans des emplois à forte compétence et à forte valeur ajoutée. Et donc, finalement, le libre-échange apporte le progrès. Le problème dans ce raisonnement-là, c'est que s'il est en partie vrai, sur la longue durée, il est vrai, il oublie, en fait, beaucoup de gens qui sont les perdants de la mondialisation, les perdants du libre-échange. C'est-à-dire que, voilà, d'où l'insistance d'ailleurs de tous les gouvernements qu'on a eu depuis les années 80 sur les 80% de classe d'âge au bac, c'est cette idée que tout le monde va faire des études supérieures, que tout le monde va avoir des emplois d'ingénieur, de cadre, et en fait non, ça se passe pas comme ça. Et il y a énormément de perdants. Et en fait, le premier effet du libre-échange sur les sociétés, c'est pas tellement qu'on perd ou qu'on gagne des emplois, c'est qu'on augmente énormément les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on permet aux riches de s'enrichir, grâce à une exploitation notamment des ouvriers chinois, parce que beaucoup d'ouvriers chinois, ils sont employés par des entreprises européennes ou américaines ou japonaises qui ont délocalisé en Chine, donc de pays développés. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Et de l'autre côté...
Donc les inégalités sociales, c'est ce que tu étais en train de nous évoquer. C'est-à-dire finalement, tu étais en train de dire que les délocalisations vis-à-vis d'une balance commerciale, vis-à-vis d'une création d'emplois qui perdent et qui arrivent, on a de plus en plus de gens en complet cravate et de moins en moins en bleu de chauffe d'usine. Mais bizarrement, on a des inégalités sociales qui explosent en Europe. On voit disparaître, fondre ce qu'on appelait les classes moyennes. Et quel est le pouvoir qu'ont les pays de libre-échange, qui applique le libre-échange comme système économique pour pouvoir peser là-dessus?
Alors pour pouvoir peser là-dessus, il y a... D'abord, je vais aller tout à fait dans ton sens, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les inégalités dans les pays les plus libre-échangistes et les plus libéraux de manière générale ont explosé. C'est quelque chose de difficile à imaginer. Deux exemples comme ça pour donner un ordre de grandeur. Aux États-Unis, les gens qui ont les ouvriers qui ont les revenus les plus bas ont des revenus plus bas aujourd'hui que dans les années 70, alors que le PIB a progressé de à peu près 2,5 à 3, a été multiplié par 2,5 à 3. En Angleterre, qui depuis Thatcher pratique une politique extrêmement libérale, le niveau d'égalité calculé avec le coefficient de Gini est à peu près équivalent à celui de la Jamaïque, un pays sous-développé particulièrement connu pour ses inégalités très fortes. Donc déjà là, on a cet élément-là qui est très fort. Et pour répondre à ta question que j'ai oubliée entre-temps...
Alors la question, c'était la capacité d'un État à enlever ses inégalités sociales alors qu'il est en plein libre-échange.
Le seul moyen qu'il y a de lutter, quand on reste en régime de libre-échange, de lutter contre ces inégalités grandissantes, c'est de développer un système de protection sociale. Sauf que le système de protection sociale... Il diminue la compétitivité du pays parce qu'il augmente le coût du travail. Donc plus on s'ouvre,
plus il va y avoir une tendance, une pression à diminuer les protections sociales.
Donc vive le protectionnisme, c'est la conclusion, parce que lui, il nous permettrait de revoir arriver toutes ces protections sociales.
Et voilà, alors c'est là la difficulté. C'est-à-dire que le protectionnisme intégral, façon comme l'a pratiqué par exemple l'Union soviétique à une époque, c'est prendre le risque de perdre effectivement, de prendre du retard par rapport aux autres pays, de perdre de la compétitivité, alors pas seulement au niveau des salaires, mais au niveau de la technologie. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même de rester un minimum ouvert aux autres pour pouvoir récupérer, rester au niveau de l'innovation, du progrès technologique des autres.
Moi, ce que j'aime bien dans le libre-échange et dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est que finalement, ça a un petit côté antique et romain. On balance un gars dans une arène et on le livre au lion. Devinez qui va gagner.
Et qui va gagner, entre autres, une des victimes, c'est l'écologie.
Mais oui, parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que l'autre enjeu derrière tout ça, c'est de relocaliser aussi la production, et le protectionnisme peut servir à ça, donc avoir un modèle économique qui soit beaucoup plus en phase avec ce qu'on appelle le développement durable, et qui soit en tout cas quelque chose qui puisse être viable sur le long terme. Parce qu'il faut quand même savoir que les échanges commerciaux, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu est quand même énorme. Donc pourquoi pas le protectionnisme pour aussi être une base de réflexion pour redéfinir aussi le ce qu'on attend de l'Europe en matière politique, tout simplement pour les années à venir. Voilà, comment refondre une Europe politique à partir de cette réflexion sur le protectionnisme.
On boucle donc ainsi le débat qui n'en était pas un. Entre refondation politique, protectionnisme, on voit qu'il y a quand même finalement un jeu de nuances qui n'est pas évident. Qui demande un peu peut-être d'ambition politique, de savoir si on veut protéger plus les individus que les entreprises, et que ce dosage-là, peut-être certains gouvernements de gauche ont su le faire, mais en tout cas pas celui-là.
Je dirais pas que c'est une question de dosage, mais simplement de conviction, et pour être un petit peu plus berlusconien, une question de burn, que dont les hommes politiques manquent sévèrement, même ceux qui ont des idées.
On te laissera là à tes conclusions, Jean-Marc, mais nous allons passer à l'agenda altermondialiste du mois. Et on commence par Magali.
Alors, il y a une manifestation chorale et animée pour l'éducation grâce au collectif des parents d'élèves du 93, le dimanche 10 février à 13h30, sur le parvis de la Cité des Sciences dans le 19e, avec la compagnie Joli Môme notamment.
Patrick ?
Procès de Veolia contre le film Water Makes Money, le jeudi 14 février à 13h30 au Palais de Justice à Paris, dans l'île de la Cité, 4 boulevard du Palais, dans le premier arrondissement. Attention, il faudra trouver la chambre précise parce que le Palais de Justice est grand. Le collectif de la Mare jette également des films à ce sujet, ou sur lamare.org ou sur watermakesmoney.com.
Jean-Marc ?
Alors, concert de soutien pour les gens de Notre-Dame-des-Landes. Après tous les événements des derniers mois, il y a déjà eu plusieurs reportages et films de fait. Et vendredi 15 février, il y a un concert de soutien à La Parole Errante, 9 rue François Deberghe, 93 100 Montreuil.
Alors, du 16 février au 3 mars, en divers lieux parisiens, il y aura la Semaine anticoloniale 2013, c'est la 8e édition. C'est organisé par le réseau Sortir du colonialisme, et on trouve tous les éléments, le programme est mis à jour régulièrement et disponible, sur http://www.anticolonial.net.
Le documentaire est un genre maltraité par la télévision. Les diffuseurs exercent un poids considérable sur l'organisation et l'économie du secteur. Les Jeunis d'Acrimed se proposent de réfléchir sur la place du documentaire à la télé. Le jeudi 21 février à 19h, à la Bourse du Travail à Paris, 3 rue du Château d'Eau.
Inventaire avant liquidation, perdre sa vie à la gagner, c'est le thème du ciné-débat d'Attaque 12e autour d'un film de Rémi Ricordo, le mardi 26 février à 20h au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre.
Une chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire, un grand événement national qui a absolument besoin du soutien d'un maximum de groupes, d'associations, syndicats, partis, etc. Ce sera le samedi 9 mars à Paris.
Alors, pour finir, une information, le Forum social mondial 2013 qui se déroulera du 26 au 30 mars à Tunis. Évidemment, on peut se poser la question, vu les derniers événements, de savoir si ça pourra bien se passer à Tunis. Espérons que les révolutionnaires, les vrais, auront gagné d'ici là et que ce sera un forum social rayonnant et non pas une déroute.
Et nous terminons l'émission qui était donc présentée aujourd'hui par les militants altermondialistes de l'association Attaque et des journalistes du PIAF avec Sylvain, Claude, Patrick, Jean-Marc, Alex, Magali et Pierre. Et nous écoutons pour terminer Altiplano tiré du CD Altiplano du même nom.